Vous écoutez On lit pour vous.
Une visite dans un centre anti-avortement. Un texte de Sandrine Vieira, paru le 14 septembre 2024 dans Le Devoir. Les jeunes Américains de la génération Z qui voteront pour la première fois à l'élection présidentielle sont face à des enjeux qui les touchent de façon bien particulière. Le Devoir est allé à leur rencontre dans plusieurs États pour explorer les questions qui les motivent à se rendre aux urnes en novembre 2024. Sur Internet, le centre Birth Right of Charlotte dit offrir des services gratuits et confidentiels à toute personne aux prises avec une grossesse non planifiée ou problématique. Il propose notamment des tests de grossesse gratuits, des soins compatissants et des séances confidentielles pour discuter de vos options. Rien n'indique aux femmes qui se présentent dans ces locaux aménagés dans une jolie maison à quelques minutes du centre-ville de Charlotte en Caroline du Nord qu'elles s'apprêtent à entrer dans un centre anti-avortement. Car Birth Right of Charlotte est affilié à Birth Right International, un réseau international religieux et anti-avortement créé à Toronto en 1968. Sa mission est de fournir de l'aide et des ressources aux femmes enceintes, promettant un soutien sans jugement, mais sans afficher sa position sur l'avortement et en s'efforçant de convaincre les femmes de ne pas y avoir recours. Aux États-Unis, on compte entre 2500 et 4000 centres anti-avortement, soit environ trois fois plus que le nombre de cliniques pratiquant l'avortement. Un reflet de la bataille idéologique qui fait rage dans le pays et qui est un des enjeux majeurs de la campagne présidentielle en cours. De petits bas en cadeau. Les jeunes femmes qui patientent dans la salle d'accueil auront peut-être des soupçons sur la véritable nature de l'endroit lorsqu'elles entreront dans la salle d'entrevue que nous fait visiter Mark Culver, 69 ans, qui travaille au centre comme bénévole depuis son ouverture en décembre 2023. Dans un coin de la pièce, plusieurs modèles de fœtus en développement de toutes les couleurs et tailles sont exposés sur une petite table. À côté, un vieux fauteuil brun fait face à deux chaises où les bénévoles mènent leurs entretiens. Dès cette première rencontre, ils questionnent longuement les femmes, majoritairement dans la vingtaine, afin de comprendre les motivations de leur visite. Ils leur remettent ensuite une liste de ressources, notamment des organismes d'aide en logement ou des endroits offrant des soins médicaux gratuits, indique Mark Culver. Il n'a toutefois pas voulu en remettre une copie au Devoir. Nous leur montrons, en tenant compte de leur contexte, comment obtenir le soutien nécessaire pour surmonter les obstacles qui les poussent à envisager l'avortement, explique-t-il. Mark montre ensuite un panier contenant de petits bas de laine, roses et bleus, tricotés par sa femme et d'autres membres de l'Église. Nous leur offrons aussi leur premier cadeau de bébé. Les femmes pleurent à coup sûr quand elles les voient, dit-il avec un grand sourire. Puis, il prend un iPad et ouvre une application de suivi de grossesse. À l'écran, on voit un fœtus en 3D, tandis qu'un battement de cœur enregistré se fait entendre. C'est l'un de nos outils. Si quelqu'un est indécis et envisage la pire décision, nous pouvons l'utiliser pour montrer une image et écouter le battement de cœur du bébé, explique-t-il. Le bénévole se rapproche finalement de la table où sont exposés les nombreux modèles de fœtus. Une autre manière de rendre les choses réelles pour les femmes indécises, dit-il. Dieu a créé les hommes et les femmes pour qu'ils se reproduisent. Une vie est un corps et une âme. Dieu infuse cette âme dans un nouveau-né au moment de la conception. Donc, un bébé, une vie dans l'utérus, n'est pas différent de nous à l'extérieur, affirme-t-il. Il prend ensuite dans ses mains le plus petit modèle, à peine plus gros qu'un de ses doigts. Le militant contre l'avortement de longue date raconte qu'il en garde souvent un dans sa poche pour le montrer aux femmes lorsqu'il manifeste devant les cliniques d'avortement. L'option taboue. On s'installe ensuite dans une petite pièce au mur tapissé d'illustrations d'anges et de portraits de mères et de bébés. Sur un bureau, une statue de la Vierge Marie s'ajoute à la collection de décorations religieuses. Mark Culver explique qu'à Birthright Charlotte, on prend bien soin de ne jamais utiliser le mot « tabou ». On ne fait aucune référence à l'avortement. En fait, on ne dit même pas le mot. Si elles l'envisagent, nous ne les empêchons pas, mais nous ne les orientons pas vers des services non plus, précise-t-il prudemment. À ses yeux, l'avortement n'est une solution dans aucune circonstance, pas même lors d'une grossesse issue d'un viol. Pourquoi punir le bébé pour les actes d'un violeur? Il faut punir le violeur. Il y a là deux traumatismes, le fait d'avoir été violé et le fait de tuer son enfant. La valeur d'une vie ne dépend pas de la façon dont cette vie a été conçue, estime-t-il. Vous écoutez une visite dans un centre anti-avortement, un texte de Sandrine Vieira, paru le 14 septembre 2024 dans Le Devoir. De fausses cliniques. En plus des organisations comme Birthright, d'autres centres anti-avortement tentent d'attirer les femmes enceintes en se présentant faussement comme des cliniques médicales, en offrant des échographies gratuites ou encore l'accès à du personnel médical, explique Tara Romano, la directrice de Pro-Choice North Carolina, un organisme de défense des droits reproductifs dans l'État. Ces cliniques n'offrent en fait aucun soin de santé, dénonce-t-elle. Une fois à l'intérieur, les femmes sont plutôt soumises à des pressions pour garder leur bébé. Il existe près de 100 centres anti-avortement dans tout l'État de la Caroline du Nord contre 16 cliniques d'avortement réelles. En tant que procureur général de la Californie, la vice-présidente Kamala Harris a plaidé pour imposer des réglementations plus strictes aux centres anti-avortement. Avant d'être défaite par la Cour suprême en 2018, une loi californienne obligeait notamment les centres à déclarer qu'ils n'étaient pas des centres médicaux agréés et à offrir des informations sur les services d'avortement disponibles. Lors de son passage à Charlotte, Le Devoir a contacté 9 centres anti-avortement et fausses cliniques à proximité du centre-ville. Birthright of Charlotte est le seul centre ayant accepté une entrevue. Les autres établissements ont répondu que la personne responsable était absente ou malade ou ont simplement refusé l'entrevue sans offrir d'explication. Lorsque nous cognons aux portes du Pregnancy Resource Center, PRC, of Charlotte, qui se présente comme une clinique médicale à but non lucratif qui fournit des services médicaux, des informations précises et un soutien émotionnel, une femme portant une tenue d'infirmière nous donne une adresse courriel pour demander une visite. Une simple recherche a permis de découvrir que le domaine de l'adresse courriel en question appartient à la Human Coalition, une organisation contre l'avortement. Les diplômés. Dans la cuisine du centre Birthright, Mark Culver et sa femme révèle la dernière surprise qui est réservée aux femmes choisissant de mener leur grossesse à terme. Une cinquantaine de sacs cadeaux recouvrent une partie du plancher, derrière la table de cuisine. En ouvrant le sac, sa femme sort d'abord deux paquets de couches, puis un ensemble de pyjamas roses, suivi de lingettes pour bébé et, enfin, quelques produits de soins pour bébé. L'ensemble des articles provient des dons reçus par l'organisme, indique le couple. On leur donne toujours les petits bas de laine et la feuille de ressources, mais on leur dit aussi que si elles reviennent juste avant leur accouchement, elles auront droit à un sac cadeau, explique Mark Culver. Le couple de bénévoles se dit convaincu de pouvoir tout les offrir avec la popularité que le centre a gagnée dans les derniers mois. Au cours des 3 prochaines semaines, chaque journée est remplie de rendez-vous, se félicite-t-il. Parfois, les gens prennent des rendez-vous, mais ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport. Alors, nous commandons des Uber pour qu'ils puissent venir, raconte sa femme. Le couple traverse finalement la cuisine, puis un étroit corridor pour se diriger vers la sortie. Et eux, ce sont nos diplômés, s'exclame Mark Culver en pointant vers le mur. Une dizaine de petites photos de nouveaux-nés, les bébés des femmes ayant fait appel au centre, sont accrochés à un tableau de Liège. Leur nom et leur date de naissance sont inscrits au dos de chaque photo. Juste à côté, un deuxième tableau de Liège, complètement vide, est prêt à être rempli d'autres photos de diplômés. C'était une visite dans un centre anti-avortement, un texte de Sandrine Vieira, paru le 14 septembre 2024 dans Le Devoir.
Faire face au vent, un texte de Marc Cassivi, paru le 15 septembre 2024 dans La Presse. Tania Contoyani me raconte l'anecdote avec un soupir dans la voix. Le 24 juin 2024, la présidente de l'Union des artistes a croisé le premier ministre François Legault dans le cadre des célébrations de la fête nationale. Je lui ai souhaité que notre culture survive. Il m'a répondu « Ça, madame, c'est à cause de l'immigration. » Je lui ai demandé s'il réalisait qu'il parlait à Tania Contoyani, issue de parents grecs, qui ont insisté pour que leur fille soit francophone. J'ai dit « Non, ce n'est pas la faute de l'immigration. » C'est notre façon d'intégrer les immigrants qui est défaillante. C'est notre culture qui va faire la différence. Tania Contoyani a eu la chance, dit-elle, d'avoir des parents avant-gardistes qui ont tenu à l'envoyer à l'école en français dans les années 1970, même s'ils n'y étaient pas contraints par la loi, à une époque où la grande majorité des immigrants grecs scolarisaient leurs enfants en anglais. « On ne peut pas fermer la porte au monde, » dit-elle. « Je ne conçois pas ça. Il y a trop de détresse actuellement sur la planète et on a trop de territoire pour l'occuper seul. » Tania Contoyani m'a donné rendez-vous au Café Falco, à quelques pas des bureaux de l'Union des artistes, dans le quartier Mile End, de Montréal. Membre du conseil d'administration de l'UDA depuis 2017, l'ancienne trésorière a succédé à Sophie Préjean à la présidence du Syndicat des artistes québécois en avril 2023. La comédienne est arrivée à la tête de l'UDA alors que les artistes sont à la croisée des chemins, il me semble, en raison de l'intelligence artificielle qui se développe à la vitesse grand V et de la mondialisation des contenus qui est acceptée comme une fatalité. Ce sont des années charnières pour la culture, pour le Québec en particulier, même si c'est un enjeu mondial, estime aussi Tania Contoyani. Les cultures nationales sont mises à mal plus que jamais par les plateformes numériques qui vampirisent beaucoup les marchés locaux, constate-t-elle. C'est d'autant plus inquiétant pour le Québec, voisin immédiat des États-Unis. La présidente de l'UDA se demande d'ailleurs s'il y a une réelle volonté politique, à Québec comme à Ottawa, de faire payer leur juste part aux géants du web. Elle parle d'une voix douce et posée, mais sans langue de bois, comme François Legault a dû le constater. Le problème actuellement, dit-elle, c'est que la culture est extrêmement sous-estimée. Il n'y a pas de vision. Il faut reconnaître que c'est, particulièrement dans une société comme la nôtre, une culture locale, nationale, d'une autre langue que la majorité nord-américaine. Ce n'est pas l'immigration, le problème de la survie de notre langue et de notre culture. C'est notre sous-financement. Les gouvernements augmentent le financement à la culture, reconnaît la présidente de l'UDA, mais celui-ci n'est pas indexé au coût de la vie. Donc, on est en train d'atrophier vraiment notre culture, selon elle. Tania Contoyani en veut à ce double discours politique qui laisse entendre, d'une part, que la culture est d'une extrême importance, mais qui, de l'autre, ne la soutient pas avec des investissements considérables. La culture, c'est toujours important dans la parole, mais pas dans les gestes. Je suis devenue artiste parce que j'étais convaincue que les arts transforment la vision du spectateur. C'est essentiel, des artistes qui transcendent notre condition humaine. Ça nous ouvre les yeux. Il y a aussi une multitude d'arguments économiques en faveur d'un financement accru de la culture, soutient cette diplômée en administration des affaires qui se destinait à la maîtrise à HEC lorsqu'elle a bifurqué vers le Conservatoire d'art dramatique de Montréal. La Chambre de commerce du Grand Montréal est en train de se concentrer sur les retombées des arts et spectacles dans une métropole culturelle comme Montréal, souligne-t-elle. J'en suis ravie, parce que ça, c'est un discours qui va être entendu. Ce n'est pas qu'elle a l'impression de prêcher dans le désert, mais Tania Contoyani constate que les gens qui sont sensibles aux doléances des artistes ne sont pas ceux qui ont le pouvoir, ni financier, ni politique. Vous écoutez « Faire face au vent », un texte de Marc Cassivi, paru le 15 septembre 2024 dans la presse. Alors que le gouvernement caquiste promet d'investir des milliards dans des projets controversés d'usines de batteries, de voitures électriques et de troisième lien autoroutier, des décideurs lui demandent parfois s'il n'y aurait pas trop d'artistes. Moi, ce que je réponds au gouvernement, c'est « Vous les formez, ces artistes, dans les écoles d'art visuel et dans les écoles de théâtre, où il y a de 60 à 70 acteurs diplômés chaque année. À partir du moment où ils sont formés, le travail de l'UDA, c'est de les protéger. Moi, je défends leur droit de travailler dans le milieu qu'ils ont choisi. » Elle sait de quoi elle parle. Elle a connu, comme la plupart de ses pairs, des passages à vide et des années de vache maigre, même si elle a joué dans 3 productions théâtrales l'an dernier. Tania Contoyani n'avait pas travaillé depuis 2 ans lorsque Gilles Duceppe lui a proposé d'être candidate du Bloc québécois en 2006. Elle a refusé et le lendemain, ironie du sort, elle recevait une proposition pour jouer dans la série télé jeunesse « Kaboom ». Aujourd'hui, la présidente de l'Union des artistes s'inquiète de l'impact de l'intelligence artificielle, IA, sur le travail de quelque 4000 comédiens qui tirent des revenus du doublage. Elle communique régulièrement avec les membres de l'UDA par l'entremise de capsules. La semaine dernière, pour tester l'IA, une collègue a traduit sa capsule en italien. Ça a pris 2 minutes et mes lèvres étaient synchro. Je l'ai ensuite fait traduire en grec et malgré les termes syndicaux, c'était impeccable. Comment distinguer le vrai du faux? Si j'étais doubleuse, je serais paniquée. Comme citoyenne, je constate qu'on peut me faire dire n'importe quoi. C'est paniquant aussi. On ne s'inscrit pas du tout à l'UDA contre l'évolution de la technologie, mais il faut réfléchir davantage à la question d'un point de vue éthique et philosophique. À qui va-t-on donner la priorité? À la machine ou à l'être humain? Tania Contoyani estime que la population québécoise a souvent une perception erronée des conditions économiques des artistes parce qu'elle reconnaît à la télévision ceux qui gagnent le mieux leur vie. Il s'agit du 1% des 13 000 membres de l'UDA qui contribuent grandement au filet social de ses pairs. Ce ne sont pas des ultra-riches et leur carrière peut s'arrêter demain matin. En 2016, selon une étude du Conseil des arts du Canada, le revenu médian d'un artiste canadien était de 17 300 $, soit moins de la moitié du revenu médian de la population générale. Le Conseil des arts et des lettres du Québec, CALQ, désormais dirigé par Sophie Préjean, souffre de sous-financement et y obtenir des subventions semble de plus en plus ardu. On a consulté toutes les associations d'artistes en art vivant à la suite des réponses aux demandes de subventions du CALQ et on a constaté que parmi les artistes qui n'ont pas été financés ou ont été sous-financés, personne n'a annulé son projet. Les artistes n'ont pas été payés ou se sont endettés. C'est ça, la réalité, déplore Tania Contoyani. Combien de fois va-t-il falloir répéter que la culture, c'est structurel pour un peuple? C'est un des piliers essentiels. Il y a la santé, l'éducation, mais ça ne tient pas juste sur deux pattes. Il en faut trois, et la troisième, pour moi, c'est la culture. Il y a un effort d'éducation à faire, reconnaît la présidente de l'UDA, mais elle ne perd pas espoir. J'ai souvent des désillusions politiques, mais je suis plutôt de nature optimiste. Je mène les combats que je peux mener, le plus respectueusement et avec le plus d'élégance possible. Même si je suis ferme et que je dis parfois des choses qui sont difficiles à entendre, je suis contente de servir mes pairs en ce moment précis, alors qu'il y a beaucoup de vent de face. Qui est Tania Contoyani? Née à Québec en 1967, titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval, elle est diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 1994. Comédienne, elle travaille surtout au théâtre, on l'a vu récemment dans Chimérica chez Duceppe. Membre du conseil d'administration de l'Union des artistes depuis 2017, elle est devenue trésorière en 2019, puis a été élue présidente en avril 2023, au deuxième tour, devant Pierre-Luc Briand. C'était « Faire face au vent », un texte de Marc Cassivi, paru le 15 septembre 2024 dans la presse.
La marche pour le climat a-t-elle encore un sens? Un texte de Juliette Husson, paru le 1er octobre 2024 dans Le Devoir. Le 27 septembre s'est tenue la grande marche annuelle pour le climat au Québec et ailleurs dans le monde. Plusieurs milliers de personnes de tous âges se sont réunies à Montréal lors de la manifestation pour la suite du monde. Mais en réalité, la suite du monde, nous en parlons depuis longtemps. En 2015, lors de la COP21, 195 pays ont adopté l'accord de Paris, un engagement juridiquement contraignant pour limiter le réchauffement climatique. En 2018, Greta Thunberg, alors adolescente, a lancé la grève pour le climat pour dénoncer l'inaction des gouvernements face à l'urgence écologique. Une urgence qui a d'ailleurs toujours fait consensus. Mais quel est l'effet réel de ces marches pour le climat aujourd'hui? Oui, elles permettent une remobilisation citoyenne sur une cause essentielle. Cependant, l'événement semble noyé dans un flot d'actualité. Les priorités politiques se sont déplacées vers des sujets plus immédiats. Cela fait 10 ans que l'on parle d'écologie, que les jeunes se sont mobilisés à l'échelle mondiale, que les partis verts ont gagné en électorat et que les études scientifiques se sont multipliées. Pourtant, l'écologie n'est plus au cœur des discussions, et ce, malgré le fait que les effets dévastateurs du dérèglement climatique sont plus visibles, les forêts brûlent, les terres sont inondées et les réfugiés climatiques sont déjà une réalité. Des territoires vont disparaître, les températures battent des records et la biodiversité s'effondre. Aujourd'hui, l'attention est tournée vers l'énergie et l'économie. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, comme bien d'autres initiatives écologiques, est souvent ignoré. La taxe carbone est jugée trop menaçante pour l'économie par le Parti conservateur du Canada. La quête d'autosuffisance énergétique justifie de nouveaux oléoducs. Le débat sur les moteurs thermiques devient une affaire d'argent. Les trains restent inaccessibles, le kérosène est détaxé et les éoliennes sont accusées de pollution visuelle. Quant à la réduction de la consommation de viande, cela est encore un défi pour plusieurs. L'écologie, c'est une belle idée. Mais celle-ci semble trop lointaine pour une période marquée par l'inflation et la crise économique. Comment penser à 2050 quand on ne sait pas comment l'on tiendra jusqu'à la fin du mois? Ce problème dépasse les frontières. L'écologie n'a jamais été un sujet politique pris au sérieux. Il a souvent servi de levier électoral ou d'outil d'influence mondiale. La COP28 aux Émirats arabes unis, qui est l'un des plus grands producteurs de pétrole, en est la preuve frappante. La Coupe du monde au Qatar avec ses stades climatisés, ou l'Everest transformé en décharge, témoignent de nos contradictions. Pire encore, nous avons laissé nos déchets plastiques créer un septième continent, flottant au cœur des océans. N'oublions pas que l'écologie est une question sociale avant tout. Les 10 % les plus riches sont responsables de près de la moitié des émissions mondiales, tandis que les plus pauvres sont les premiers touchés. L'écologie, c'est aussi un combat pour l'équité entre les nations et au sein des populations. Malgré la lassitude générale et les priorités qui changent, l'écologie reste une question centrale pour l'avenir de nos sociétés. Les mobilisations citoyennes, même discrètes, rappellent que la lutte n'est pas finie. Chaque mobilisation est un rappel que l'urgence climatique ne disparaîtra pas avec l'inaction. Nous rappelons au monde les répercussions de nos actes. Nous réclamons des réponses. Il est de notre devoir de continuer à nous mobiliser, pour la planète, oui, mais aussi pour un monde plus juste. Si l'espoir vacille, il n'est pas éteint. Le 27 septembre dernier, comme les autres années, nous avons su le prouver. C'était « La marche pour le climat a-t-elle encore un sens? » un texte de Juliette Husson, paru le 1er octobre 2024 dans Le Devoir.